sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Alors en cette année du 11e centenaire de la Normandie, nous avons déjà eu l'occasion avec Franck Ferrand sur Europe 1 de faire connaissance avec les Normands, les Nordmen, autrement dit des hommes venus du Nord. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Oui, ce sont des Vikings en effet, venus du Nord, du grand Nord de l'Europe, que ces Normands du 10e siècle. Des Vikings sédentarisés dans cette belle province que l'on appellera désormais la Normandie. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire plus ample connaissance avec les descendants de ceux qui s'y sont installés en 911 aux côtés de Roland. Et, plus spécialement, avec le premier d'entre eux, avec Guillaume, Guillaume le bâtard, qui va devenir un jour Guillaume le conquérant.
Et vous allez nous raconter la conquête de l'Angleterre par ce chef et par son peuple.
Oui, à peu près telle qu'elle est racontée sur la Telle du Conquest, cette extraordinaire broderie de 70 mètres de long que l'on connaît sous le nom de tapisserie de Bayeux et dont nous allons essayer tout à l'heure de percer les mystères. Alors nous allons le faire en compagnie notamment d'Adrien Goetz, auteur d'un roman mémorable qui a ce grand chef-d'œuvre pour pivot, j'allais dire quasiment pour personnage.
Et nous allons donc traverser la Manche avec plaisir.
À bord de toute une flottille de petits bateaux ballottés par des flots agités.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Les Normands du temps de Guillaume sont les enfants de deux peuples bien différents. Ce sont à la fois des Vikings, ça évidemment, mais aussi des Francs. Vous savez, leur violence guerrière, que je n'ose qualifier de scandinave, s'est en quelque sorte polie. Elle s'est peu à peu amodiée au contact de ces Francs, tout imprégnés encore de l'héritage romain. Guillaume lui-même est le fruit de cette double appartenance et vous allez voir qu'il est constamment marqué par une force tout à fait digne des Vikings, remise dans des formes finalement très latines, et c'est cela qui va créer le mélange imparable. Alors je regrette, mais on ne peut pas saisir la personnalité du futur conquérant si l'on n'insiste pas sur ses origines. Guillaume est ce qu'à l'époque on appelle un bâtard, c'est-à-dire que son père est noble, c'est même le duc de Normandie en personne, Robert Ier, dit le libéral. Mais sa mère, Erleva, la célèbre, la belle Erleva, est une simple fille de bourgeois. Son père était tanneur à Falaise. Robert avait tout juste 18 ans quand il est tombé sous le charme de cette jolie fille. Il lui a fait un enfant, Guillaume, mais il n'a pas osé l'épouser. Alors quand je dis qu'il n'a pas osé l'épouser, en tout cas selon le rite chrétien, il est possible qu'il l'ait fait dans le rite danois. Or, à peine 6 ans plus tard, on est en 1034, c'est l'époque du millénaire de la mort du Christ, Robert annonce son départ pour la Terre Sainte. Avant de partir, il fait jurer à tous ses barons, pour le cas où il ne reviendrait pas, ce qui après tout est tout à fait envisageable, il leur fait jurer d'accepter Guillaume comme seigneur et maître. Or, on apprend dès l'année suivante la mort de Robert le Libéral. Et c'est comme cela qu'à l'âge de 7 ans, Guillaume devient duc de Normandie. Enfin, duc de Normandie en théorie, parce que dans la pratique, nombreux sont ceux qui profitent de sa jeunesse pour essayer de récupérer le pouvoir. Le duché sombre dans l'anarchie et l'enfant duc est en grand danger. C'est la famille de sa mère, ce sont ces bourgeois de Falaise qui vont le protéger en le cachant dans un endroit tenu secret pendant 4 ans. Or, il a quand même 7, 8, 9, il a 10 ans le petit Guillaume à l'époque, c'est-à-dire l'âge de souffrir de la situation. Et c'est justement dans cette humiliation qu'il va sans doute puiser cette extraordinaire force de caractère qui, par ailleurs, fera plus tard sa célébrité. Pendant ces années noires, deux factions vont s'opposer en Normandie. Un peu comme une sauce qui serait en train de tourner, les ingrédients ont tendance à rester séparés. En basse Normandie, si l'on veut, autour de Caen, la faction scandinave et païenne, animée par la noblesse guerrière, qui rêve de ressusciter les Vikings, si je puis dire. Et puis en haute Normandie, là-haut, autour de Rouen, la faction française et chrétienne qui s'appuie sur les bourgeois des villes et qui entend défendre ce fameux héritage latin. C'est sur cette faction franque que Guillaume, le bâtard, comme il se présente lui-même dès l'âge de 14 ans, c'est sur eux qu'il va s'appuyer pour reconquérir son duché. Cette question de bâtardise hante le jeune homme. Et au moment de se marier, par compensation, évidemment, il va choisir une jeune fille de très haut, très pur lignage, Mathilde, la fille du comte Baudouin de Flandre. Elle est en même temps la nièce d'Henri Ier de France. Vous avouerez que le choix est magnifique. Comme en plus son père est d'accord, tout irait pour le mieux si le pape Léon IX, pour des raisons d'équilibre politique dans la chrétienté, ne s'opposait à cette union. Finalement, et Baudouin et Guillaume maintiennent leur décision. Résultat, les voilà tous deux excommuniés. Sa réconciliation avec le Saint-Siège, Guillaume ne l'obtiendra que bien plus tard, grâce au théologien Lanfranc qui deviendra son confident, qui deviendra son ami. Or, le soutien du pape va se révéler déterminant pour légitimer les aspirations de conquête de Guillaume. Ça, c'est l'héritage de la double culture dont je vous parlais tout à l'heure. On envahit, on pille, on conquiert, comme les grands ancêtres vikings, mais en même temps, on légitime. On justifie, on légalise comme les grands modèles romains. Nous allons traverser la Manche. Bon, dans les années 1060, vous voyez, Guillaume a un petit peu plus de la trentaine. Et le roi d'Angleterre est un prince à cette époque-là très faible, mais très pieux. On l'a surnommé du reste Édouard le Confesseur. Cet Édouard, qui a fait vœu de chasteté, n'a donc pas d'enfant, a pour manie de promettre sa couronne à tous les princes qui l'environnent. Et bien sûr, Guillaume de Normandie en fait partie. Et comme c'est une promesse qui l'arrange, il la prend très au sérieux. Sauf qu'en réalité, dans l'ombre du malheureux Édouard, le véritable tenant du pouvoir en Angleterre est un certain Harold de Wessex, qui lui se méfie beaucoup des Normands. Or, un beau jour de 1064, par un hasard inouï, le fameux Harold qui naviguait, semble-t-il, au large de l'Angleterre, s'en vient échouer en terre franque, en terre normande. Aussitôt arrêté, le haut dignitaire anglais est récupéré par le duc de Normandie qu'il traite avec tous les honneurs, mais profite de la situation pour lui faire jurer de l'aider, lui Guillaume, à entrer en possession du royaume d'Angleterre sitôt qu'Édouard aura disparu. Harold, qui ne songe qu'à se tirer de ce mauvais pas, jure tout ce que l'on veut, la main levée sur des coffres qu'on a mis là. Ce qu'il ne sait pas, Harold, c'est que ces coffres contiennent de saintes reliques et qu'en vertu des lois féodales, son serment est censé l'engager jusqu'à la mort. Ce qui fait qu'au moment où Édouard meurt, quelques mois plus tard, Harold va commettre un parjure terrible en gardant pour lui-même la couronne d'Angleterre. Vous pouvez faire confiance à Guillaume, bâtard ou pas, pour aller la récupérer. Guillaume le bâtard rêve de devenir Guillaume le conquérant et c'est une trahison qui donc va lui en fournir le prétexte ou en tout cas ce qu'il vit comme une trahison, à savoir l'acceptation par Harold de la couronne d'Angleterre. Il se trouve que la conjoncture est favorable à Guillaume. Outre-Manche, Harold guette une attaque imminente des Danois au nord de son royaume. Sur le continent, le beau-père de Guillaume, Baudouin de Flandre, est en ce moment même régent de France. Quant au pape avec lequel il s'est finalement réconcilié, il attend une réforme à son profit de l'Église d'Angleterre. C'est une réforme à laquelle Guillaume s'est engagé. Voilà donc le duc de Normandie à la veille d'entreprendre la plus audacieuse des campagnes. Le point choisi pour l'embarquement, c'est l'estuaire de la Dive, autour, pas très loin de Cabourg. D'énormes quantités de bois déjà préparées sont acheminées à cet endroit pour y être assemblées par une véritable armée de charpentiers. Et tous ces artisans, comme le montre très bien la tapisserie de Bayeux, tous ces artisans s'activent à construire des embarcations.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et on retrouve Franck sur Europe 1 pour une émission consacrée aujourd'hui à l'énigme de Bayeux.
Alors dans la deuxième partie de cette émission, on va revenir évidemment sur les questions que nous pose aujourd'hui la tapisserie de Bayeux. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir ce chef-d'œuvre. Si ce n'est pas le cas, il faut absolument que vous couriez à Bayeux. Et si c'est le cas, eh bien retournez-y, ça ne vous fera pas de mal. C'est une des plus belles choses qu'on puisse contempler. Imaginez une pièce d'étoffe qui est à peu près haute de 50 cm environ, mais qui mesure près de 70 mètres de long, d'un seul tenant, et qui évoque un peu à la manière d'une bande dessinée. Et nous allons voir à quel point d'ailleurs tout ça fait penser à la bande dessinée dans la deuxième partie de l'émission, qui évoque à travers de plus de 1500 sujets patiemment brodés de couleurs chatoyantes toute l'histoire que précisément je suis en train de vous raconter cet après-midi. Alors, pour revenir à nos préparatifs de traversée, il est évident que certains des navires nécessaires ont été fournis par des alliés de Guillaume, enrôlés dans cette expédition, ne serait-ce que par appât du gain. Le travail nécessaire n'en est pas moins titanesque. Il va demander 6 mois pleins d'un travail acharné et quand tout est au point et que les vents s'y prêtent, c'est-à-dire vers le 12 septembre 1066, eh bien on s'embarque. Direction, non pas tout de suite l'Angleterre, mais l'anse de Saint-Valery-sur-Somme, d'où la traversée sera plus courte. Pendant cette première expédition, un certain nombre d'embarcations qui sont trop chargées d'hommes et de chevaux se renversent dans la mer et noient leurs occupants. Naturellement, Guillaume interdit aux témoins d'en parler, sous peine de mort. C'est pas le moment de démoraliser l'armée. Quand je dis l'armée, faut quand même entendre une petite armée, hein, sûrement pas plus de 7000 hommes en comptant les services. Ça paraît peu pour prendre possession de l'Angleterre, mais c'est déjà beaucoup lorsqu'il s'agit de leur faire traverser la Manche tous ensemble. Or le problème, une fois parvenu à Saint-Valery, c'est que les vents sont plein nord, au lieu des vents de sud qui seraient nécessaires évidemment pour gagner les côtes anglaises. On raconte que pendant 15 longues journées, Guillaume va vivre les yeux rivés à la girouette de l'église du village, tressaillant, dit-on, au moindre mouvement d'air. À chaque fois que la girouette grince un peu, on voit Guillaume ouvrir de grands yeux. Enfin, les vents veulent bien tourner au sud et le chef, cachant son émotion, va pouvoir embarquer à bord de la Mora, le bateau que lui a offert Mathilde sur ses deniers et dont la figure de proue désigne du doigt le royaume à conquérir. Les opérations d'embarquement s'effectueront dans une précipitation indescriptible, de peur que le vent ne change à nouveau. Il faut en profiter, évidemment. On a quitté la Normandie dans la soirée et la nuit ne tarde pas à tomber. Pour éviter les collisions, un fanal a été placé sur la mâture de chaque petit navire. Le plus visible se trouve naturellement à la vergue de la Mora. Lorsque se lève enfin la journée du 29 septembre, l'embarcation de Guillaume, sans doute plus rapide que les autres, se retrouve seule au milieu des flots. À travers la légère brume matinale, on ne distingue pas encore les côtes à conquérir. Mais le Normand se doute bien que l'Anglais doit l'attendre avec ses hommes là de l'autre côté. Il importe dès lors de ne pas arriver dispersé. On attendra tous les retardataires. Et pour occuper l'esprit de ses compagnons, eh bien, le duc fait servir à bord un véritable banquet bien arrosé. Enfin, la mer se couvre peu à peu de dizaines et de dizaines de voilures. En face, la côte s'est maintenant dessinée et l'armada des Normands rejoint sans peine à marée basse la plage de Pevensey, là même où Jules César, 1000 ans plus tôt, et même un peu plus que ça, avait déjà débarqué. Surprise, stupéfaction, pas l'ombre d'un Anglais en vue. Le débarquement est une partie de plaisir, Guillaume s'interroge, les espions d'Harold, pourtant nombreux, auraient-ils failli ? Une enquête menée sur place va lui livrer la réponse. En fait, ce même vent de nord qui a retardé sa traversée a favorisé celle des Danois. Harold a dû se porter vers le nord à marche forcée et grâce à l'appui de ses barons du nord, il vient de battre les Vikings à Stamford Bridge. Les Normands ont donc tout le temps de s'installer. Ils soufflent comme toujours le chaud et le froid. Tantôt, ils mènent de subtiles missions pour suivre la progression de Harold et de son armée. Et tantôt, ils incendient les maisons sur leur passage pour un oui, pour un non. Ce n'est qu'au premier jour d'octobre qu'Harold aura connaissance du débarquement des Normands sur ses côtes. Aussitôt, il décide de rentrer à Londres, toujours à marche forcée. Et là, devant la défection de ses barons du Nord, le nouveau roi, celui que les Normands traitent d'usurpateur, va devoir se contenter pour aller combattre Guillaume et les siens d'une armée, elle aussi, réduite à 7 ou 8 000 hommes. 7 ou 8 000 hommes de chaque côté. Ce sont donc deux petites armées qui vont s'affronter, mais qui vont s'affronter dans un choc terrible. Alors pendant cette marche, les deux chefs échangent quelques politesses. Harold délègue un moine auprès de Guillaume avec ce message. Il est vrai que le feu roi Édouard avait constitué Guillaume son héritier, seulement il a changé d'avis sur son lit de mort et l'a nommé finalement, lui, Harold, il faut que Guillaume le comprenne. Il doit vous dire que de son côté, le chef normand ne veut rien entendre et envoie à son tour un moine à Harold pour lui rappeler la promesse d'Édouard et surtout son propre serment à lui, Harold. Le moine ajoute que le duc de Normandie est prêt à plaider sa cause en jugement à sa convenance, car il est sûr de son droit. Et même si Harold redoute le jugement, Guillaume est tout prêt à l'affronter en combat singulier, dans le but très chrétien, n'est-ce pas, d'épargner les vies humaines. Là, Harold est furieux. « Nous poursuivons notre marche !» Voilà sa réponse. Et cette fois, la confrontation armée est inévitable. Il va y avoir une bataille et vous avez compris que le moment est venu pour moi de vous parler de la célèbre bataille d'Hastings, le 14 octobre 1066. Alors le 13 dans la soirée, les deux armées sont en vue l'une de l'autre. Harold a fait stopper la sienne au sommet d'une colline, ce qui est censé lui offrir la position avantageuse. Et encore, l'endroit est étroit, hein, ça fait moins de 500 de nos mètres, ce qui a pour inconvénient d'obliger les hommes à se serrer. Et les meilleures troupes anglaises, les fameux House Carles, sont très très mal disposées. Ils combattent à la hache, ils vont vraiment être gênés dans leur mouvement, leur grand mouvement tournoyant. De son côté, Guillaume accepte sans se plaindre de prendre position dans la plaine. Et le 14 au matin, il assiste à la messe et prend soin de porter à son cou certaines des petites reliques sur lesquelles Harold avait prêté serment. Il fait le vœu d'édifier sur place une abbaye en cas de victoire, puis il harangue ses guerriers, évidemment, d'une voix chaude, puissante. Il leur rappelle qu'ils sont dos à la mer, qu'ils n'ont par conséquent aucun espoir de fuite, mais qu'en revanche, s'ils combattent avec ardeur, la récompense de leur courage sera non seulement un des plus hauts faits d'armes de tous les temps, mais aussi à portée de la main toutes les richesses, toutes les terres bien grasses, tous les bonheurs de l'Angleterre.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Avec un récit qui nous relate aujourd'hui sur Europe 1, la bataille anglo-normande.
Le combat s'engage, il est vraiment âpre. Les Normands, hurlants, montent à l'assaut du promontoire d'Hastings. Or, même s'ils sont trop serrés, les Anglais jouissent d'une position dominante qui leur permet de cribler les Normands et notamment leur rangée d'archers, d'armes de jet, qui transpercent, qui clouent sur place l'ennemi. Déjà, sur le flanc gauche de Guillaume, des cavaliers et fantassins bretons commencent à battre en retraite et très vite, la rumeur se répand que le duc lui-même aurait été tué d'une flèche. C'est la panique chez les Normands. Alors pour les détromper, Guillaume arrache son nasal, vous savez, la pièce métallique qui est sous son casque, et il se montre en criant « Je suis vivant, regardez-moi, je suis vivant et je serai vainqueur !» Le courage renaît peu à peu, on se croirait chez Corneille, mais en haut de leur colline, les Anglais, bien soudés, se défendent et se défendent admirablement. C'est alors que le duc a l'idée de feindre la retraite. Il voit les Normands qui détalent devant eux et qui redescendent la pente. Alors, les Anglais se mettent à charger à leur tour. Ils se dispersent en direction de la plaine. C'est exactement ça, c'est exactement ce que Guillaume attendait. Ces guerriers font volte-face et ils peuvent plus facilement atteindre l'ennemi. À deux reprises, la même tactique entraîne le même succès, succès parachevé par la cavalerie normande qui, prenant maintenant les Anglais à revers, leur inflige des pertes terribles. Voilà, en Poméranie d'un seul coup, on a l'impression d'être à la charge des chevaliers teutoniques chez Eisenstein. Vous avez reconnu quelques accents de Prokofiev, mais qui nous mettent bien, je trouve, dans l'ambiance. Le gros de l'armée anglaise, ce qu'on appelle le Fyrd, composé de paysans réquisitionnés, se défend très bien. Ces gens-là descendent des Saxons, ils savent se battre. Il n'empêche, la bataille tourne maintenant à l'avantage indiscutable de Guillaume. D'ailleurs, Harold vient de recevoir une flèche. Les chroniqueurs disent une flèche perdue, ça vous me permettrez d'en douter. En tout cas, il gît dans le sang des siens sur le champ de bataille. Alors la tradition veut que l'on ait fait appel à son ancienne maîtresse Edith au col de Cygne pour identifier formellement le corps que Guillaume fit enterrer sur le rivage. Comme cela, aurait-il dit, il gardera la côte après sa mort comme il l'a gardée de son vivant. Et l'abbaye va voir le jour sur les hauteurs d'Hastings. C'est Battle Bay, n'est-ce pas, qui sera consacré près de 30 ans plus tard en 1094. Alors maintenant, le rival de Guillaume a disparu, évidemment, ce qui fait que son royaume est entre ses mains, du moins dans l'idée. Parce que, avec l'aide de quelques centaines de chevaliers seulement, il convient désormais de prendre possession de l'Angleterre, de se partager ses fiefs, de se faire accepter des populations. Et là, une fois encore, la double culture des Normands va faire merveille. D'un côté, ils ne vont pas hésiter à s'imposer par la terreur, en incendiant, comme le faisaient leurs ancêtres, la moindre poche de résistance. Mais d'un autre côté, ce sont devenus des administrateurs avisés. Ils vont doter l'Angleterre de structures de gouvernement qui sont déjà modernes. Au reste, Guillaume n'en a pas fini avec sa conquête. En effet, à Londres, le conseil des grands barons vient d'élire au trône un certain Edgar. Aussitôt assuré la protection des ports du sud, le duc doit donc remonter vers Londres et reprendre en main la situation. Alors dans cette affaire, le soutien du pape va se révéler crucial. En effet, non seulement Edgar ne trouve aucun évêque pour le couronner, mais les prêtres dans leur paroisse ont reçu l'ordre de vanter les mérites du nouveau maître de Guillaume, bien entendu. Et presque à son corps défendant, Guillaume va finir par accepter la couronne qu'on lui offrait pour devenir lui le bâtard, lui le simple duc de Normandie, roi d'Angleterre. En son fort intérieur, il trouve qu'il est encore trop tôt pour se faire couronner, et sans doute a-t-il raison, mais puisque tout le monde paraît y tenir, autant que la cérémonie soit à la hauteur de l'exploit militaire et politique qu'il vient d'accomplir. Le couronnement de Guillaume a lieu à Westminster le jour de Noël 1066. Le sacre est placé sous les auspices du pape, dont la bannière continue de suivre Guillaume pas à pas. C'est l'archevêque d'York qui officie, et au moment de couronner le nouveau roi, il demande rituellement à l'assistance, en français et en anglais, si elle accepte pour roi le duc de Normandie. Alors la foule acclame Guillaume. Oui, mais dehors, les soldats à cheval postés près de la basilique prennent peur. Ils s'imaginent que l'on vient de tuer leur chef. Ils se mettent en ordre de bataille et, suivant leurs bonnes habitudes, ils incendient toutes les maisons des environs. Dans l'église même, la foule horrifiée tente de fuir. Le couronnement se termine dans un désordre apocalyptique et Guillaume, qui essaie de rester stoïque, tremble en fait de tout son corps au moment où on lui pose sur la tête la couronne d'Angleterre. Ainsi donc, Guillaume de Normandie a réussi son pari, mais il le réussit dans un climat d'ambiguïté tout à fait incroyable. Et il n'est pas au bout de ses peines. Les graves incidents du sacre sont un mauvais augure pour le règne et surtout ils symbolisent bien le malentendu permanent entre deux pays, entre deux langues, deux cultures qui, au fond, n'ont pas grand-chose de commun. Certes, la pression démographique liée à la prospérité normande a poussé Guillaume à étendre son domaine. Mais les terres qu'il a conquises ne sont pas vierges et l'on ne peut pas faire abstraction de ces anglo-saxons qui d'emblée considèrent les Normands comme une armée d'occupation. La belle synthèse qui, sur le sol de la basse Seine, s'était opérée pacifiquement et à travers les décennies et le siècle entre le sang normand et la culture latine, cette synthèse est loin d'être accomplie entre l'envahisseur normand et la victime anglaise. Elle finira cette synthèse par se faire, évidemment, et elle donnera naissance à une culture très riche, très belle, la fameuse culture anglo-normande des 12e, 13e siècles. Cette culture anglo-normande dont les Britanniques d'aujourd'hui sont si fiers, vous savez. Mais il faudra au moins deux générations, sinon trois, pour y parvenir. Pour Guillaume, l'époque d'une vie stable et douce est révolue. Désormais, à peine a-t-il réglé les problèmes importants qui se posent d'un côté de la Manche, qu'il lui faut aussitôt courir de l'autre côté pour régler ceux survenus en son absence. En effet, encore une fois, loin de fusionner, Normandie et Angleterre restent bien deux pays différents, avec un même souverain. Je crois que c'est un des rares exemples dans l'histoire, si l'on enlève évidemment toute l'histoire coloniale, c'est un des rares exemples où le chef de l'État doit partager son temps comme ça entre deux véritables territoires. Pour Guillaume, cette conquête de l'Angleterre aura été à la fois son plus bel exploit et son pire cauchemar. À compter du 14 octobre 1066, tout ce qui lui avait réussi va se mettre à lui filer entre les mains. Alors certes, il est devenu très puissant, très riche, très glorieux, mais il a perdu dans l'affaire cet équilibre et ce savant dosage qui avait fait depuis des décennies le miracle normand. À terme, son héritage va se diluer des deux côtés de la Manche. Juste après le flash de 14h, nous allons déployer pour vous dans toute sa splendeur la tapisserie de Bayeux. Thank you.
12h30, 14h30 sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Il est effectivement grand temps de retrouver Franck et ses invités sur Europe 1 pour la partie magazine d'Au cœur de l'histoire avec une émission consacrée aujourd'hui à l'énigme de Bayeux.
Nous sommes à Bayeux cet après-midi, en tout cas nous y sommes par l'esprit. Tout à l'heure nous allons y être au téléphone et m'ont rejoint dans cette bonne ville de Bayeux, tout près du Cotentin. Vous voyez, on est aussi tout près de ces plages du débarquement dont on parlait lundi dernier. Nous sommes en compagnie d'Adrien Goetz, que je ne présente pas, auteur d'un certain nombre de romans à grand succès et qui a consacré un de ses romans à la tapisserie de Bayeux. Ça s'appelle Intrigue à l'anglaise. À mon avis, c'est une de vos plus belles réussites, ça. Bonjour Adrien, merci.
Bonjour Franck, merci.
Et Patrick Weber nous a rejoint. Il est historien de l'art, romancier, journaliste et en l'occurrence scénariste d'une bande dessinée, très belle bande dessinée consacrée à cette affaire de la bataille d'Hastings, de la conquête de l'Angleterre et de Guillaume le Conquérant. Ça s'appelle tout simplement 1066 et c'est, j'allais dire, sous-titré Guillaume le Conquérant. On peut dire finalement, Patrick Weber, que la tapisserie de Bayeux, qui est exposé donc actuellement encore à Bayeux, et j'incite tous nos auditeurs à aller la visiter. Cette tapisserie de Bayeux est la plus vieille ou l'une des plus vieilles bandes dessinées de l'histoire.
Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est la plus vieille bande dessinée de l'histoire. C'est clair que, vous savez, on peut remonter à l'Égypte, on peut penser que les reliefs
de la
bataille
etc.
de Kadesh, pourquoi pas,
aussi, oui.
Le Livre des Morts, tout ça peut aussi être de la bande dessinée. J'ai quand même le sentiment que dans cette tapisserie de Bayeux, on a vraiment un dialogue entre l'image et le texte, qui est vraiment, je dirais, la marque de fabrique de la bande dessinée. Et si on veut vraiment rentrer dans le récit de la tapisserie,
avec un rythme
vraiment,
évidemment, avec des personnages récurrents que l'on reconnaît par leur couleur et leur silhouette.
Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Donc, on reconnaît les personnages, il y a des transitions comme dans la bande dessinée, et puis il y a aussi des ellipses comme dans tout bon scénario. Forcément, on raconte pas tout. Il y a des choses aussi qu'on évoque, et puis on laisse aussi d'ailleurs l'imagination du lecteur. Enfin, j'ai envie de dire un lecteur,
oui,
c'est
oui,
pas vraiment
sûr.
Un lecteur, un visiteur, un spectateur, que sais-je. Eh bien, elle aussi, elle peut vagabonder à travers les cases. Même s'il n'y a pas vraiment de cases, en tout cas les séquences de cette tapisserie.
Alors on ne va pas l'approcher trop vite ni trop tôt, cette tapisserie. Il faut que tout le décor soit restitué et personne ne peut le faire mieux qu'Adrien Goetz qui nous a décrit une sorte de ville de Bayeux idéale dans un truc à l'anglais.
C'est une des plus jolies villes de Normandie. On oublie un peu Bayeux et le Bessin parce qu'on connaît la Normandie de Deauville et de Trouville, celle des Parisiens, le Mont-Saint-Michel. Mais entre les deux, il y a le Bessin avec Bayeux et quand on est dans cette magnifique ville avec ses maisons en granit doré.
Ça a été préservé par une guerre pourtant brutale.
Oui, Bayeux a eu une chance miraculeuse. Et quand
première ville libérée.
Bien sûr, le général de Gaulle fait un grand discours à Bayeux. Et quand on entre dans le centre Guillaume le Conquérant, le musée qui abrite le chef-d'œuvre.
Un bel hôtel du XVIIe siècle.
Voilà, exactement. Un séminaire épiscopal. On entre dans cette salle où on est plongé dans la pénombre. Et là, on est réellement au cœur de l'histoire parce qu'on peut toucher du doigt, ou presque derrière cette vitre, ce document inouï qui date du XIe siècle et qui nous raconte une histoire. Et ça, c'est
absolument émouvant.
Alors, il est
déployé entièrement. Il faut expliquer, donc la salle est assez plongée effectivement dans l'obscurité.
La salle est très belle.
La vitrine est d'un seul tenant, bien entendu, et puis elle tourne sur elle-même.
C'est cela.
Et on ne voit en fait, dans un premier temps, que la moitié de la tapisserie.
Ce qui souligne la dimension narrative dont parlait Patrick à l'instant, parce que moi je dirais que c'est aussi peut-être un roman policier, parce qu'on on suit Harold, dont vous avez parlé, qui nous paraît d'abord être un personnage sympathique et positif. On ne comprend pas que ça va être le traître. Et c'est à mi-parcours, en quelque sorte, au tournant de la tapisserie, qu'on découvre que ce personnage sympathique est en fait le félon.
D'ailleurs,
et ça, c'est une technique de narration.
Il est présenté comme étant le félon. Justement.
La question est de savoir qui le présente ainsi.
Voilà.
Parce que, mais nous y viendrons ça si vous voulez bien plus tard, mais en fait, la tapisserie de Bayeux possède tout un message qui, non seulement est d'un certain point de vue un message ésotérique, mais aussi un message probablement politique.
Bien sûr. Il faut savoir qui l'a commandé et tout ça.
Alors
oui,
d'abord,
viendra,
d'un point de vue matériel, voyons à quoi elle ressemble. Elle est en lin.
Une toile de lin. Voilà,
toile de lin qui tire un peu. La couleur, c'est un peu couleur un peu tabac, finalement.
Oui, c'est
on peut
ça.
Dire ça.
Oui, elle est composée de lait, de lin, qui font tous à peu près la même dimension, qui
une
sont cousus bout à bout, ce qui
oui,
nous permet de voir qu'il manque la fin, que les derniers mètres ne sont plus là.
Il y en a 58 en tout, hein, qui sont
voilà,
cousus
donc,
comme ça.
Et puis, c'est brodé, comme vous l'avez bien dit, avec deux points de broderie qu'on peut essayer de reproduire.
Alors, les
puisque...
points qui font le cœur même de, d'intrigue à l'anglaise.
Oui, dans mon roman, c'est Vendrille, qui est oui. le petit ami de mon héroïne, Pénélope,
qui se
prend d'enthousiasme pour la broderie. C'est un garçon qui prend du fil, des aiguilles, et qui fait ce que font en ce moment des brodeuses en Normandie, qui ont entrepris de faire la grande broderie de l'histoire de Roland pour l'anniversaire de la Normandie, ou qui ont brodé à Pirou la conquête de la Sicile. Donc on le fait encore. Il y a deux points qui sont finalement assez simples. Vous pouvez essayer, Franck. Il y a un point de tige qui permet de dessiner les contours des personnages. Donc il y a eu un carton, on a dessiné, on reporte sur la toile. Et ensuite, au point de tige, on trace les contours. Et puis, il y a un point couché qui permet de remplir les espaces
voilà,
et de créer des reliefs.
Et voilà.
Et ça, c'est très beau. On oublie ça, parce que la tapisserie de Bayeux, on la voit uniquement comme un objet d'histoire.
C'est-à-dire
c'est aussi une œuvre d'art.
Le fait que les volumes soient remplis, effectivement,
oui.
Leur donne un très grand
une présence,
une très grande
des
présence,
reliefs qui ont dû s'aplatir, parce qu'au fil des siècles, alors, évidemment, ça s'est transformé.
Les brins de laine sont de 8 coloris, bleu pétrole, bleu clair, vert foncé, vert clair, moutarde, jaune, ocre, rouge et noir.
Et une liberté dans l'usage de la couleur est sidérante pour cette époque. C'est-à-dire que les jambes des chevaux changent de couleur pour donner une idée de profondeur ou de perspective. Il y a le cheval rouge, on n'attend pas Gauguin pour le voir apparaître. Il est déjà dans
est
la
là,
tapisserie.
Oui, voilà. Ou bleu, vif.
Il y a des chevaux bleus, il y a une fantaisie de la couleur
qui est formidable.
Et est-ce
que ces couleurs sont bien les couleurs d'origine? Parce qu'on
non,
se dit qu'elles sont...
Non, elles ont passé, bien sûr. Vous parliez des ostensions dans la cathédrale de Bayeux au fil des siècles, évidemment, peut-être même de pieuses mains.
Mais elles sont encore très vives, néanmoins.
Elles sont,
très vives,
elles sont encore vives.
Mais ce qui est émouvant aussi, c'est la fragilité, parce que le matériau
ça
est tellement fragile.
Tellement peu de choses,
c'est ça qui est extraordinaire. On connaît son âge, et on se dit, bon, on peut avoir la même émotion peut-être devant une sculpture en pierre, mais la sculpture en pierre, elle est faite pour traverser les siècles.
Ce qui est incroyable, c'est que les mythes n'y aient pas touché. Parce que quand même tout ça est brodé au fil de laine.
Il y a quelques endroits où c'est un peu reprisé. Il y a eu des retouches au 19e siècle et au 20e aussi.
626 personnages, 202 chevaux, 55 chiens et plus de 500 autres bêtes, réelles ou imaginaires. Parce qu'il y a tout ce qui se passe dans la scène centrale, mais il y a aussi les marges en haut et en bas. Ça doit vous inspirer, ça. Alors vous êtes scénariste de bande dessinée, mais vous avez évidemment beaucoup réfléchi sur le graphisme et sur la présentation d'une histoire. Le fait d'avoir comme ça trois registres avec des correspondances symboliques, c'est aussi d'une modernité folle.
C'est vrai, mais je vous avoue que les marges, justement, elles m'ont passionné, mais je les ai un petit peu mises de côté dans la narration. Ça compliquait vraiment beaucoup les choses.
Ah oui, ça prend
en revanche,
dimension,
le dessinateur avec lequel j'ai travaillé, qui est italien, qui vient de Venise,
qu'il faut nommer.
Qui s'appelle Emanuele Tenderini, qui n'avait jamais mis un pied à Bayeux, qui ne connaissait pas du tout la tapisserie. On est allé passer une semaine là-bas, il a travaillé sur la tapisserie et je lui ai dit en fait vas-y, fais ça comme tu le sens puisque c'est quelque chose de neuf pour toi. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que justement en s'inspirant de ce fameux trait, Adrien parlait de cette laine, mais c'est presque un trait, c'est un dessin avant tout. Il s'est inspiré justement du trait du dessinateur de l'époque. Ça ressemble, pour moi ça évoque un petit peu aussi le cloisonné des vitraux.
Oui,
c'est-à-dire,
bien sûr.
Et
voilà,
en Italie, il y a des
émaux
de 30 où il y a des mosaïques
voilà.
de la même époque qui sont très similaire.
Voilà. Et donc, ce qui donne, j'avais pas non plus envie d'un graphisme trop académique. L'idée, c'était de réinterpréter un petit peu l'esprit des créateurs de la tapisserie.
Réinterpréter l'esprit des créateurs et interpréter la tapisserie elle-même, c'est ce que nous allons faire aussitôt après la publicité.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1, plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Heureusement qu'on a Carmina Burana à chaque fois qu'on fait une émission sur le Moyen-Âge, c'est assez pratique. Alors cette tapisserie de Bayeux, cette broderie tout à fait extraordinaire sur son limbi, elle présente évidemment toute une histoire et des scènes très fortes. On a notamment la traversée de la Manche hein, par tous ces chevaliers normands et boulonnais, précisons-le. Cette traversée de la Manche qui est décrite, enfin que on voit les navires, comment pourrait-on les appeler ? Ce sont presque des drakkars.
Ce sont des langskip en fait. Oui. Hein. C'est ça qui est passionnant aussi parce que ce sont les fameux bateaux vikings et on s'aperçoit qu'un siècle et demi après...
Les normands ont conservé leur bonne tradition.
Et... Ils ont eu bien raison de le faire parce que c'est... Ces bateaux sont exceptionnels.
Ça leur avait bien servi dans l'autre sens, pourquoi pas continuer ? Et puis, on voit aussi, bien entendu, on a sous les yeux cette extraordinaire bataille d'Hastings avec des chevaux qui passent cul par-dessus tête, exactement. Avec des flèches. Oui. On a l'impression, c'est très impressionnant parce qu'il y a un dynamisme sur la broderie elle-même.
Dans le dessin qui était extraordinaire et qui, évidemment, est un document incroyable pour l'histoire bataille, pour l'histoire de l'événement, mais qui est aussi susceptible d'être l'objet d'une lecture du point de vue d'une histoire des mentalités, des coutumes, et même du vêtement, du mobilier.
Il y a quelque chose d'archéologique finalement là-dedans. On découvre.
C'est ce qui est fascinant. On voit comment on fait un festin. Voilà. On voit à bord de ces bateaux, il y a les chevaux qui ont leur selle, qui ont leur harnachement. On voit les boucliers.
On voit ces espèces d'armures de cotte, plus exactement.
Oui, de cotte de maille.
Oui, c'est assez étonnant.
Avec le casque à nasal, très, très typique, très reconnaissable, et des boucliers qui ne sont pas encore couverts de motifs héraldiques. Puisqu'on ne sait pas qui est le conquérant sur le champ de bataille. Il est obligé de relever son casque pour se faire reconnaître, ce qui prouve qu'il n'y a pas d'armoirie encore.
Évidemment.
Mais on a
d'où
documents...
cet épisode de l'ambiguïté sur le champ de bataille au début de la bataille d'Hastings, quand tout le monde pense
qu'il est mort.
Que Guillaume est mort.
Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'archéologique, mais de journalistique aussi, parce qu'on peut penser à César, on peut penser à Napoléon. Tous les grands conquérants ont voulu aussi raconter un petit peu, entre guillemets, le making-of de leur conquête. Et là on a presque un reportage.
Cette esthétique extrêmement cohérente de la broderie de Bayeux, elle vous a beaucoup servi, vous, évidemment. Elle ressort très fortement dans l'album que vous lui consacrez.
Écoutez, c'est un défi parce que quand vous allez chez un éditeur et que vous lui expliquez que vous allez faire un bouquin sur Guillaume le Conquérant, on trouve ça une très bonne idée. Quand vous lui expliquez que vous allez faire la transcription fidèle de la tapisserie, on vous dit, oh là là, non, un livre didactique et ennuyeux, ça ne nous intéresse pas. Et en fait, non, ça n'est pas du tout ennuyeux. Non,
et
au contraire, tout y est.
Alors, tout y est et en même temps, rien n'y est. En tout cas, évident. C'est-à-dire que ce message, qui figure évidemment sur cet extraordinaire document, sorti comme ça du XIe siècle, on peut la dater, la tapisserie, elle est très peu postérieure
à
la conquête.
Voilà, hein. La conquête c'est 1066, la tapisserie c'est peut-être quelques années
1080,
plus tard.
1080, probablement, oui.
Donc, cette tapisserie, elle est criblée de messages. Alors, nous avons vu que, par un jeu sur les trois registres, s'établissent des correspondances symboliques, etc. Tout ça est assez complexe. Mais même dans ce qui est décrit, on n'est pas tout à fait certain de savoir bien l'interpréter. Et je pense là à la thèse d'Andrew Bridgeford, qui est parue il y a quelques années, qui a été éditée aux éditions du Rocher en France, sur, il appelle ça, lui, l'histoire secrète de la tapisserie de Bayeux. Il nous dit qu'en fait, cette tapisserie aurait été offerte au demi-frère de Guillaume, donc à l'évêque Odon de Bayeux, par un seigneur boulonnais, et que le message sous-jacent, c'est la participation des boulonnais de Boulogne à cette conquête de l'Angleterre.
Idée. Le personnage d'Odon de Condeville est aussi très fascinant. Il a été évêque de Bayeux, il devient évêque de Canterbury. Il a une ambition extraordinaire, il se rêve pape, il veut être le grand homme d'État et d'Église de l'époque. Il est le fils Carlette. La mère
Herléva
de Guillaume,
dont je parlais tout à l'heure, Arlette, si on veut.
Tout à l'heure, Arlette de Falaise, pour lui donner son nom normand. Oui. Elle s'était mariée avec Herluin de Condeville, et donc Odon est le demi-frère et l'homme puissant qui peut-être a été le destinataire ou même le commanditaire de la tapisserie.
Ce qui explique l'exposition de la tapisserie dans la cathédrale. Alors, est-ce qu'on sait comment elle était exposée, cette tapisserie, autrefois ?
Pas réellement.
On n'en sait rien.
Les textes ne sont pas très précis sur cette question. Moi, j'ai imaginé d'autres choses.
Alors oui, on va y venir
dans mon roman. J'ai une hypothèse, mais
ce qui est amusant, c'est que cette tapisserie, elle a été pendant un certain temps oubliée. Il faut bien le dire.
Elle était au trésor de la cathédrale. Ouais. Elle est citée par Montfaucon, qui en reproduit
heureusement
des scènes.
Elle
ne ressurgit finalement que sous le consulat, au moment où on décide.
Napoléon l'a fait venir à Paris.
C'est ça, voilà. Peut-être pour montrer que envahir l'Angleterre, ça s'était déjà fait, que c'était possible.
Mais oui.
Donc on l'expose au Louvre. Et il y a un personnage qui s'y intéresse, qui est Dominique Vivandenon, le créateur du Louvre de Napoléon. Et c'est là
l'œil de l'empereur.
Voilà, l'œil de Napoléon. Et la tapisserie devient très populaire. On l'appelle Tapisserie de la Reine Mathilde. Il y a une petite pièce de théâtre qui est faite à cette époque. Il y a des brochures distribuées à l'armée qui est au camp de Boulogne pour leur montrer ce qu'est la tapisserie. Donc elle devient très célèbre véritablement au début du 19e siècle.
Si je fais ce détour par le consulat et bientôt l'Empire, c'est parce que, évidemment, vous avez, vous, émis une thèse qui est en rapport direct avec la colonne Vendôme.
Oui, parce qu'à la même époque,
Adrien Goetz,
Dominique Vivant-Denon a l'idée d'édifier cette colonne qui commémore la bataille de la campagne qui conduit à Austerlitz.
Sur le principe de la colonne Trajane de Rome.
Sur le principe de la colonne Trajane. Et quand on regarde la colonne Vendôme, on est frappé par le fait que c'est là aussi une bande dessinée qui s'enroule, qui monte jusqu'au sommet. Et je me suis dit que finalement, la tapisserie de Bayeux pouvait être un monument itinérant qu'on aurait enroulé sur une âme de bois et qui aurait raconté l'histoire de la conquête en Normandie et peut-être aussi en Angleterre. Un monument portatif.
En tout cas, dans votre roman, on voit Pénélope et Évandrille mettre en œuvre cette histoire et donc imaginer ce que devait être autrefois cette...
Oui, je me suis intéressé dans les bordures à tous ces chevrons qui sont un motif normand et qui permettent de raccorder en enroulant la tapisserie. Alors j'ai essayé...
Mais donc avec on l'enroulerait autour d'une sorte de grosse colonne en fait.
Bois, hein, oui, de colonne de bois qui permettrait d'en faire... Voilà, exactement. Et alors du coup, des lectures verticales deviennent possible. On voit apparaître la comète de Halley à un moment. Elle est juste à la verticale du conquérant. Enfin, il y a des éléments qui sont romanesques, hein, évidemment.
Je me suis interrogé en romancier,
mais après tout, pourquoi pas ?
Oui, ça fait rêver, ça donne même envie de voir ce que ça donnerait réellement.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Je vous avais dit que nous irions à Bayeux, nous y allons grâce au téléphone, puisque nous avons en ligne Sylvette Lemagnan, qui est conservateur du musée de la tapisserie de Bayeux. Bonjour Sylvette Lemagnan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes, vous, chargée de la conservation, de la protection de ce trésor national. C'est une grosse responsabilité, mais ça me fait rêver quand j'entends
oui,
ça.
Oui, c'est tout à fait exact. Et ce trésor national, depuis quelques années, est classé mémoire du monde de l'UNESCO.
Vous avez énormément de visiteurs. La dernière fois que j'ai voulu amener des amis visiter la telle du Conquest, il y avait une telle foule que mes amis ont pris peur. Mais j'ai insisté quand même, et ça valait la peine. Mais vous avez combien de visiteurs par an ?
Plus de 400 000 visiteurs,
oui, c'est ça, c'est
certaines
très...
années presque 500 000 visiteurs. Donc c'est vrai que si l'on veut découvrir paisiblement la tapisserie de Bayeux exposée dans sa galerie, il faut se rendre à Bayeux plutôt en hiver.
Mais bien sûr.
Mais l'été est une période faste également pour découvrir la campagne, les plages du débarquement toutes proches de la ville.
Évidemment. Alors cette tapisserie, nous l'avons un peu décrite avec mes invités, avec Patrick Weber et avec Adrien Goetz depuis un moment, mais vous nous dites-vous qu'elle est un peu la transposition textile d'une chanson de geste, en quelque sorte ?
Absolument, parce que c'est une histoire pleine de rebondissements. Et dans cette histoire, on rend hommage à la bravoure d'Harold, comme dans la chanson de Roland, où le traître lui-même est magnifié en quelque sorte.
Vous avez actuellement de grands chercheurs qui viennent travailler sur la tapisserie et qui continuent à en chercher l'essence cachée ?
Absolument. Dans quelques jours, je vais recevoir une Britannique qui, elle, s'intéresse au revers de la tapisserie de Bayeux.
Ah, oui.
Et ça nous permet surtout d'apprendre comment elle a été confectionnée. Elle n'est pas faite d'une seule pièce longue de quelques 70 mètres. Elle est faite de 9 lés de tissu raccordés les uns aux autres de manière tellement fine qu'il a fallu attendre une expertise au microscope pour découvrir une des coutures reliant deux morceaux de tissu l'un à l'autre.
C'est vraiment très, c'est arachnéen, c'est somptueux. Sylvette Lemagnan, vous présentez actuellement au musée de la tapisserie de Bayeux, donc dans ce très bel hôtel du XVIIe siècle, vous présentez une exposition qui s'appelle Emma Kimono.
et tapisserie de Bayeux. C'est-à-dire que nous avons voulu mettre en rapport deux œuvres médiévales, le rouleau du grand conseiller Ban, qui est une œuvre japonaise sur papier, une œuvre peinte qui date du XIIe siècle. Ce sont deux œuvres qui racontent une histoire sur une longueur qui de nos jours semble assez démesurée, quelques 26 mètres de long pour le rouleau du grand conseiller Ban. Et c'est très intéressant de voir qu'aux deux extrémités du globe, on prenait le temps de décrire ou par la broderie ou par la peinture des faits d'armes.
Et oui, quel fait d'armes en l'occurrence. Merci beaucoup Sylvette Lemagnan de nous avoir donné votre expertise sur ce trésor magnifique et nous vous souhaitons beaucoup de succès avec cette exposition.
Merci à vous.
À bientôt, merci. Je rappelle les ouvrages de nos invités. Évidemment, Intrigue à l'anglaise, le roman d'Adrien Goetz, est publié chez Grasset. Il y en a
et
eu d'autres
de
depuis.
Également.
Et en livre de poche, oui. Il y en a eu un certain nombre d'autres depuis, Adrien.
Il y a eu Intrigue à Versailles, qui est la suite des aventures de Pénélope et de Vendrille, et Le coiffeur de Chateaubriand, qui vient de sortir en poche lui aussi.
Et de Tanderini et Weber, donc 1066, Guillaume le Conquérant, c'est édité par Le Lombard. C'est une bande dessinée sur la bande dessinée, en quelque sorte. Adrien Goetz, il a mal fini quand même, Guillaume le Conquérant. Sa fin de vie est extrêmement triste. Il était obèse, d'ailleurs,
oui.
Il pouvait presque
oui,
plus
oui.
se déplacer. Et on dit que son cercueil a éclaté le jour de ses obsèques.
Ça a été affreux, dans une puanteur épouvantable. Et enfin bon, il y a aujourd'hui un endroit où on peut se recueillir, c'est à Saint-Étienne de Caen, à l'abbaye aux Hommes, à Caen, où il y a...
Superbe endroit.
Le tombeau de Guillaume qui contient un fémur et puis un portrait fait un peu après l'époque d'Henri VIII, d'après, semble-t-il, les traits de Guillaume. Et ça permet de le sentir présent, d'honorer sa mémoire.
Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Bonjour Faustine.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Dans trois jours, les élèves de terminale débuteront les épreuves du bac. Alors pendant une heure, on va s'intéresser à eux et on va leur donner tous les conseils pratiques pour bien aborder cette semaine, pas comme les autres. Quels sont les repas à prendre, les choses à faire, à pas faire avant d'aller plancher, de quelle manière réviser efficacement à J-3. On va vous donner une quantité d'astuces jusqu'à 15h30. Vous pouvez d'ailleurs venir partager les vôtres au 39-21, J-3 avant le bac. Tous nos conseils pour réussir. C'est donc le thème de notre émission et on vous attend également sur faustine.europe1.fr, Franck.
Merci Faustine, merci Julia, à demain.
Merci Franck, à demain sur Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.